Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène numérique. Quelles sont les bonnes pratiques pour notre sécurité sur Internet? On en parle avec Monsieur Arsène Tungali. Il est expert en gouvernance de l'Internet et formateur en sécurité numérique des données. Monsieur Arsène, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bien, et Monsieur Arsène est également directeur exécutif de Rudy International. Et cette organisation va organiser la 5e édition des AkiConf, ou la conférence sur les droits de l'homme à l'ère du numérique en République démocratique du Congo. On aura également Monsieur Blaise Ndola, qui est consultant et expert en sécurité des données depuis Goma, et le prof Kodjon Dukuma, expert en droit numérique, sera en ligne à partir de Kinshasa. Pour participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, on va s'intéresser aux normes de fonctionnement d'un service de réanimation. Docteur Jacques Mangalaboy, médecin réanimateur médical intensiviste, sera notre invité à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Debs Vita à la mise en onde de Tati Mapoukoua sur la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Bien, encore une fois, bienvenue dans ce programme de la vie au quotidien, Okapi Service. Vous savez, Internet offre aujourd'hui des opportunités énormes pour se cultiver, s'informer, se divertir, et échanger avec nos amis et former des communautés autour de nos passions. Mais cela comporte également quelques risques comme l'usurpation d'identité, le vol ou la perte des données personnelles. On peut retrouver ces données sur la place publique à cause d'une brèche sécuritaire. L'extorsion ou l'arnaque constituent également des dangers qui nous guettent et nous empêchent de jouir de ce que l'Internet nous offre. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour notre sécurité sur Internet? Comment avoir une bonne hygiène numérique? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission avec Monsieur Arsène Tungali. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il est expert en gouvernance de l'Internet et formateur en sécurité numérique des données. Il est également directeur exécutif des Rudy International, qui va organiser très bientôt la 5e édition des AkiConf. Bon, il va nous en parler au courant de cette émission. Au cours de cette émission, je voulais dire. Monsieur Arsène Tungali, encore une fois, bonjour.
Merci beaucoup, Jody.
Alors, dites-nous, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on entend par hygiène numérique?
Alors, je crois que les auditeurs qui sont là, je les salue déjà et merci pour l'intérêt que vous portez à ces sujets ici, qui est très important. À l'ère du numérique, il est très important. En tant qu'acteur du secteur, nous avons l'habitude de pouvoir sensibiliser les gens par rapport à une bonne utilisation des technologies, parce que nous pensons que, comme vous l'avez dit, Internet offre beaucoup d'opportunités. Mais tout comme notre propre corps, on a besoin de bien nous entretenir afin de pouvoir jouir de tout ce que le corps peut nous permettre de réaliser avec tout ce que Dieu nous a donné, la grâce, les possibilités, les potentialités. Si ce corps ici, on ne le traite pas bien, avec une bonne hygiène notamment, on aura du mal à pouvoir bien jouir de tout ce qu'il peut nous offrir. Alors dans l'environnement digital ou la technologie également, il nous faut certaines pratiques. Il nous faut bien nous comporter. Il nous faut bien utiliser les outils. Il nous faut bien toucher, bien manipuler les outils, bien conserver les outils afin que ceux-ci puissent nous servir et nous permettre de réaliser des résultats. Et c'est pour cela que dans notre jargon, à Rudy International, nous pouvons parler de l'hygiène numérique ou bien même de la sécurité des données. Oui. Mais parce qu'on ne va pas aller trop technique dans cette émission ici, on va parler de l'hygiène. Donc ça veut dire les règles de base, qu'est-ce que tu devrais faire. C'est comme pour le corps, on te dit tu devrais brosser tes dents, tu devrais te laver, tu devrais...
Il faut se reposer, tout ça.
Voilà juste des pratiques comme ça qui nous permettent d'avoir une bonne hygiène pendant que nous utilisons Internet.
Voilà, comme nous l'avons dit, Internet offre beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi des risques. Alors, pouvez-vous nous parler un peu plus de ces risques-là?
Alors, le travail que je fais depuis un peu plus de 10 ans m'a amené à côtoyer les communautés, à rencontrer des acteurs, à rencontrer des utilisateurs de technologies, que ce soit en RDC ou même à l'extérieur de la RDC, parce que je dis, comme tu le sais, j'ai l'opportunité de voyager un peu partout dans le monde. Et donc, les risques sont presque similaires. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe,
en Asie,
on fait tous face à presque les mêmes risques en utilisant Internet. Et déjà, n'est-ce pas, d'emblée, en RDC notamment, avec les dernières statistiques qui nous amènent à moins de 35% de taux de pénétration d'Internet mobile dans notre pays, c'est près de 53 ou 54% de la population congolaise qui a accès à un téléphone mobile. Et donc, la plupart de l'usage que nous faisons de la technologie, c'est pas sur notre téléphone. Et donc, on va passer un peu plus de temps pour parler du téléphone parce qu'il est celui qui est le plus utilisé par nos communautés.
Tout à fait.
Et donc, plusieurs risques dont nous pouvons parler déjà, l'usurpation d'identité. Tu l'as dit en introduction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un risque où quelqu'un se fait passer pour une personne qui n'est pas. Ça veut dire, je connais très bien Jody Nkashama, j'ai son numéro de téléphone, on est peut-être même connecté sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et puis je reçois un message de Jody qui me dit, ben voilà Arsène, je ne sais pas n'importe quoi, voilà je suis dans une situation difficile actuellement, est-ce que tu peux me dépanner?
Ah, ça arrive souvent, ce
n'est-ce
genre
pas
de choses.
Oui. Ça, c'est juste un exemple qui me vient par la tête. Oui. Est-ce que je viens de perdre, je sais pas, mon téléphone, et voilà, je t'appelle d'un téléphone de quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas, de mon propre téléphone, mais je serai à court de batterie tout à l'heure, mon téléphone va s'éteindre,
mais
voici le numéro
voilà.
sur lequel tu peux me contacter, mais j'ai quelques difficultés, si tu peux me dépanner avec un peu d'argent. N'est-ce pas? C'est d'abord une question d'argent. Et moi, je me dis, mais je dis, s'il arrive à m'appeler, c'est qu'il est vraiment dans le pétrin.
Dans le besoin, oui.
N'est-ce pas? Dans le besoin. Et sans trop réfléchir. Alors que ce n'était pas, je dis effectivement, qui était en train de m'appeler, c'est quelqu'un qui a usurpé son identité et qui m'a contacté au nom de Jody. Imaginez déjà, j'ai perdu de l'argent comme ça. Alors, imaginez...
Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir comme ça.
C'est ça qu'on appelle de l'arnaque. L'arnaque, ça veut dire quelqu'un vient t'extorquer sans le savoir. Et c'est seulement après que tu réalises, tu dis, ah mince, ah voilà, cette personne m'a pris de l'argent. Ou même, imaginez ce que ça peut avoir comme dommage. Je donne toujours cet exemple ici. Dans une entreprise, n'est-ce pas, nous savons tous qu'il y a un responsable des ressources humaines. Prenons une grande entreprise de 500 agents, par exemple. Et suite à une faille de sécurité, quelqu'un a pu pirater son adresse email. Ok. Pirater, ça veut dire quelqu'un a accès à ton adresse email sans ton consentement. Et imagine que cette personne se dit, ok, je vais faire une bourde dans cette entreprise ici. Et généralement, les DRH, comme on les appelle, ils ont un email, ils peuvent juste envoyer un seul email et ça va à tout le staff. Donc 500 personnes qui reçoivent un email qui dit par exemple ceci. Nous avons notre collègue qui a perdu un membre proche et nous devons nous cotiser, n'est-ce pas, à la solidarité comme nous le faisons toujours pour l'assister. Et voici, quelqu'un envoie cet email à 500 collègues dans l'entreprise au nom du DRH.
Voici le numéro par lequel
faire le virement bancaire. Oui. Le virement ou Mobile Money, n'est-ce pas? Et c'est tout mon espace. Tu n'as pas besoin nécessairement de rappeler le DRH pour le demander. Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui as envoyé cet email?
Non,
parce que tu as
temps,
vu, mais... c'est un email qui vient exactement de lui. Et un numéro sur lequel il faut envoyer de l'argent, tu n'as même pas besoin de trop réfléchir. Et voilà, voilà de l'argent. 500 collègues, chacun 10,
chacun
20, 50, 30,
ça,
40, 100, ouais. ainsi de suite. Et à la fin, le DRH, quelqu'un juste comme ça lui dit, bon, est-ce que tu as reçu finalement la somme qu'on était en train de collecter?
Mais le monsieur s'est dit,
mais de quelle somme est-ce qu'on est en train de parler?
Oh
voilà, je parle juste des questions d'argent, mais il n'y a pas que ça. Imaginez même dans notre vie quotidienne, quelqu'un qui se fait passer pour ton enfant. On te dit que voilà, c'est ton fils qui a été kidnappé. Et voilà, quelqu'un... voilà, donc, plusieurs exemples qui, juste en train d'essayer d'expliquer c'est quoi l'usurpation d'identité, ce qui peut être très dommageable dans certaines situations. Alors, d'autres risques, il y en a beaucoup. Et lorsqu'on va en parler, peut-être lorsqu'on va parler des mesures de sécurité, la porte d'entrée, c'est généralement le mot de passe. Le mot de passe. C'est ça que j'appelle la clé d'entrée. N'est-ce pas, quand nous fermons notre porte et que nous sommes à l'intérieur, on se sent en sécurité. Et même quand nous sortons à l'extérieur, que nous avons fermé notre porte, nous nous disons que notre
maison
est restée en sécurité.
Oui.
Mais est-ce que la clé, après avoir fait cela, nous la déposons n'importe où?
Non,
il faut bien la garder. Quelque part où personne ne pourra avoir accès. C'est exactement ça le mot de passe. Et si je peux oublier d'en parler, mais retenez, si vous oubliez tout ce que je dirai aujourd'hui, rappelez-vous juste que le mot de passe, c'est la clé d'entrée pour votre sécurité, en tout cas un très grand pourcentage.
D'accord, je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir M. Blaise Ndola, qui est consultant et expert en sécurité des données depuis la ville de Goma. M. Blaise, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue Monsieur Blaise. Alors dites-nous, quelles sont les bonnes pratiques pour notre sécurité sur Internet? Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet tous les jours. Comment être en sécurité lorsqu'on navigue sur Internet?
Effectivement, comme les peut-être pour ajouter à ce que Monsieur Arsène a dit tout à l'heure, moi je pense que la première des bonnes pratiques, d'abord lorsqu'on utilise les outils numérique ou bien lorsqu'on accède à Internet, c'est d'abord la vigilance. Donc, moi, je me dis, quand on utilise ces outils, il ne faudrait pas baisser la garde. Il faut toujours rester aux aguets. Il faut tout voir de près et tout analyser. Parce que souvent, les attaques et autres choses, ce sont juste des faits qu'on peut banaliser, alors que celui qui est derrière ces exploits ou bien ces attaques, lui, c'est ce qu'il est en train de chercher. Donc, moi, quand je parle toujours aux gens, je leur demande d'abord de savoir que c'est Internet, au fait, et que tout le monde est là, et que voilà, il faut d'abord rester vigilant, il faut tout surveiller, tout regarder de près. Et lorsqu'on ne banalise pas ces petits faits, ces petits gestes, là, ça nous permet, au fait, de déceler ou bien de détecter les pièges qu'il y a. Donc, pour moi, c'est par là qu'il faut commencer d'abord, au-delà de tout, parce que vous pouvez, par exemple, comme bonne pratique, vous pouvez avoir des mots de passe forts, vous pouvez ne pas utiliser un même device à plusieurs personnes, vous pouvez éviter, par exemple, de cliquer sur des liens suspects, vous pouvez éviter, par exemple, de naviguer sur des liens suspects et tout, mais si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez tomber des pièges tels que ce que M. Arsène venait de dire, par exemple. Un de vos proches vous envoie un message et parce que vous êtes là, vous ne vérifiez pas à deux reprises et vous répondez directement sans avoir vérifié. Donc, il y a d'abord l'aspect humain, effectivement, qui entre en jeu et qui vient en premier lieu. Donc, que vous soyez expert en informatique, en sécurité numérique de plus haut niveau, si l'aspect humain, cette vigilance, cette présomption-là de cette prédisposition-là de savoir que non, il y a un danger que je peux courir en utilisant Internet, moi je pense que ça, c'est aussi un des éléments très capital, plutôt un des éléments qu'il faut considérer, au fait. Donc, c'est ce que je voulais d'abord ajouter à ce niveau du débat par rapport à ce que M. Arsène a dit. Donc, cet aspect-là humain, c'est-à-dire cette vigilance que nous devons tous savoir lorsqu'on utilise Internet.
Bien, mais il y a des gens aujourd'hui, ils vont dans plusieurs sites où on leur demande de donner leurs identités, numéro de téléphone, même numéro bancaire, etc. Et les gens s'inscrivent sans problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gens de comportement?
Et effectivement, ça revient à ce que j'ai dit. Lorsqu'on est vigilant, en fait, lorsqu'on veut souscrire à un service, on doit savoir détecter les éléments qui sont importants pour accéder à ces services. Et du coup, la plupart des attaques, vous voyez, on vous demande de souscrire à un service, mais on vous demande des données qui ne sont pas importantes pour accéder à un service. Vous voyez, donc, et ça fait en sorte que les gens fournissent beaucoup plus des informations personnelles qui ne sont pas importantes pour accéder à un service, mais les gens le fournissent. Donc, pour moi, je conseille juste aux utilisateurs d'Internet d'être vraiment vigilants, de savoir, je vais accéder à tel service, je peux donner ça comme détail personnel, et ça, je ne peux pas donner. Donc, il y a vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et lorsque les gens seront beaucoup plus vigilants, ils seront OK. On me demande, par exemple, d'accéder à un jeu en ligne. Mais pour accéder à un jeu, on me demande, par exemple, le numéro de mon compte bancaire, ou bien on me demande, par exemple, mon adresse de domicile, ou bien on me demande, par exemple, ma date ou bien mon année de naissance, ou bien on me demande, par exemple, le nom de mes parents. Donc, il y a juste des détails ou des informations qui sont vraiment personnelles. Il ne faut pas donner à n'importe qui et n'importe où, et surtout bien analyser, par exemple, la politique de traitement de ces informations-là. Et tout, donc c'est vraiment de la vigilance pour savoir qu'est-ce qu'il faut donner, à qui est-ce qu'on veut donner ces informations-là et pourquoi donner ces informations-là lorsqu'elles n'ont vraiment rien à faire avec le service auquel vous voulez souscrire.
Bien, merci. Monsieur Arsène nous a dit tout à l'heure que la sécurité commence par le mot de passe. Alors il faut avoir un mot de passe, on dit qu'il faut que le mot de passe soit fort, pas... Très simple, pas votre date d'anniversaire ou date de naissance, etc. Pouvez-vous nous en dire plus?
Alors, je voudrais déjà saluer l'intervention de M. Blaise qui a touché un point très important avant de revenir à ça. Il a parlé de la vigilance. Et c'est là que j'ajoute pour dire réfléchir deux fois avant de prendre une quelconque action. C'est dire déjà que lorsque nous sommes sur Internet, pendant que nous nous amusons, il y a d'autres gens qui sont autour en train de chercher comment nous faire du mal. Donc cette prédisposition d'esprit est déjà très importante. Il a parlé également de nos données personnelles. L'arnaque et tous les autres dangers passent généralement par les données que nous avons offertes. Les arnaqueurs, ils ne vont pas fouiner dans notre porte-monnaie pour trouver les éléments par lesquels ils peuvent passer pour nous atteindre. Ils vérifient sur nos pages, sur les réseaux sociaux, ils vérifient partout où nous avons mis un tel numéro de téléphone, où nous avons inscrit notre email. Et moi, je pose la question aux auditeurs, réfléchissez, pendant toute la semaine passée, à combien d'endroits est-ce que vous avez placé vos données? Pour quel usage? C'est là que vous allez vous étonner que vous recevez un email, je ne sais pas de qui, et vous posez la question, mais cette personne a eu comment mon adresse email?
Oui.
Parce que nous mettons nos adresses e-mail juste à la volée comme ça. Nous mettons et voilà, et puis c'est parti. Alors pour revenir au mot de passe, c'est encore une donnée personnelle qui devrait être parmi les données que nous allons vraiment très bien protéger et tout chérir, parce que c'est ça qui nous permet d'entrer dans notre environnement numérique. Que ce soit un téléphone, n'est-ce pas, déjà pour ouvrir un téléphone, la plupart d'entre nous avons déjà un code pour ouvrir notre téléphone. N'est-ce pas? Parce que nous pensons que les éléments que nous gardons à l'intérieur, ou bien notre vie privée à l'intérieur devrait être protégée. Alors, imaginez si le seul mot de passe, généralement de 4 chiffres ou 5 chiffres que nous avons pour accéder à notre téléphone, quelqu'un peut y accéder. Quelqu'un peut le découvrir facilement. Et donc, ça veut dire que cette personne pourra entrer dans notre téléphone. Et le danger se situe à quel niveau? Lorsque nous faisons de telles formations, il y a certaines personnes qui nous disent, non, merci, moi, j'ai pas besoin de mot de passe, je n'ai rien à cacher.
Ah bon?
N'est-ce pas? La plupart des fois, les gens pensent que les choses à cacher, c'est peut-être des choses compromettantes nécessairement qu'ils pourraient avoir dans nos téléphones.
Ouais.
Pourtant, ce n'est pas que ça. Et moi, je réponds toujours à ce type de personnes. Si toi, tu n'as pas grand-chose, tu penses que tu n'as pas beaucoup de choses à protéger, moi, j'en ai. Alors, si nous sommes en contact, nous deux, et que toi, tu ne protèges pas ton téléphone, tu me mets en danger, moi également, qui suis ton contact. Parce que comment ça peut se passer? Lorsque nous perdons un téléphone, et qui n'était pas suffisamment protégé. N'est-ce pas, la personne qui tombe sur ce téléphone-là et qui sait accéder déjà à nos contacts, ça veut dire qu'elle peut appeler, et ça me ramène, n'est-ce pas, à l'usurpation d'identité dont j'ai parlé. Et donc, cette personne a accès à tout mon répertoire de contacts. Cette personne peut facilement manipuler mes contacts. Et donc, moi, en tant que ton contact, je suis en danger également parce que toi, tu ne t'es pas protégé. Et donc, le mot de passe pour accéder au téléphone, le mot de passe pour protéger nos réseaux sociaux. Et comment est-ce que ça se passe? Nous avons vu très récemment, que ce soit dans la ville de Goma ou même à Kinshasa, beaucoup de comptes Facebook notamment qui ont été piratés. et où vous voyez désormais les auditeurs qui me suivent, ils vont se retrouver, vous voyez sur les stories, là quand on parle de Facebook, leur statut ou stories, des gens commencent à publier de la nudité ou bien des contenus qui ne sont pas
appropriés.
Et donc, c'est généralement des personnes qui, leur mot de passe a été hacké ou a été piraté, et cette personne a désormais le contrôle de son compte Facebook. Imaginez, vous êtes une personnalité publique, un pasteur très respecté dans la communauté, un homme politique très respecté dans la société.
Et on voit des nudités sur votre page.
Voilà, quelqu'un a piraté votre mot de passe et il commence à publier des choses avec toutes les personnes qui vous suivent, avec qui vous avez réussi à créer une communauté et qui voient des contenus comme ça, c'est votre crédit. Vous discréditez.
Les gens seront choqués.
Les gens seront choqués et c'est votre réputation qui peut tomber en pâture. Et donc, pour parler des mots de passe, c'est des mots de passe qui devraient être vraiment pas génériques, des mots de passe qui sont de plusieurs caractères, mais généralement on conseille que ce soit des chiffres, des lettres et tout. Mais les experts sont même allés très loin pour conseiller plutôt des phrases de passe plutôt que des mots de passe. Parce que les mots de passe, pour qu'ils soient vraiment sécurisés, il faudrait qu'ils soient peut-être de plus de 8 caractères, que tu mélanges les chiffres, les lettres, les caractères spéciaux. Et donc, c'est souvent difficile de retenir cela dans la tête. Mais une phrase, par exemple, juste un exemple rapidement, je travaille à Radio Okapi 2023. N'est-ce pas?
Oui.
Qui peut imaginer un mot de passe comme ça?
C'est très compliqué.
N'est-ce pas? C'est très simple, oui. Tu ne l'oublies pas, mais c'est quelque chose qui te protège. Il n'y a personne qui pourra imaginer...
Imaginer une telle phrase.
Une telle phrase.
Et arriver à la reconstituer.
Bien,
nous parlons de l'hygiène numérique. Quelles sont les bonnes pratiques pour notre sécurité sur Internet? Merci à tous les internautes qui ont déjà réagi sur la page Facebook d'Okapi Service. On va lire quelques commentaires dans les minutes qui suivent. Appelez-nous au 099 706 99 41.
Okapi.
Hygiène numérique, quelles sont les bonnes pratiques pour notre sécurité sur Internet? Merci à Nathan qui nous a écrit sur Facebook. Il dit ceci. Pour notre sécurité sur Internet, évitons d'ouvrir des pages qui nous proposent des offres impossibles. Les sites avec des noms de domaines compliqués comme XYZ, ABC, etc. sont également à éviter. Pourquoi même ne pas utiliser un VPN? Je crois, c'est comme ça que ça se dit.
Oui.
Et si c'est sur Facebook, si on sait qu'on n'en sait pas trop sur la sécurité d'un compte, mieux vaut le verrouiller. Monsieur Blaise Ndola, qu'est-ce que vous pouvez dire à Nathan par rapport à ce qu'il vient de dire?
Oui, merci beaucoup, monsieur Nathan. Il est vrai que c'est une question très, très importante. D'abord, je voudrais revenir sur la question du mot de passe. Si vous pensez vraiment que vous êtes en insécurité, au-delà d'avoir mis un mot de passe fort, il faut aussi ajouter un deuxième facteur d'authentification. Peut-être qu'on va en parler plus tard. Vous pouvez paramétrer vos comptes et consoles de sorte qu'après avoir mis un mot de passe, on vous envoie un code, soit sur numéro de téléphone ou bien par un autre moyen. Donc, ça essaie un peu de renforcer la sécurité. Alors, effectivement, l'utilisation des VPN est très importante, pour essayer un peu de protéger votre connexion. Mais ne vous en faites pas, si vous avez mis un mot de passe faible, même si vous êtes sur VPN, on peut toujours vous pirater. Donc, l'utilisation du VPN, effectivement, il y a des VPN qui bloquent certains sites malveillants, qui bloquent certains pop-up ou bien certaines attaques. C'est vrai, en tout cas, pour ceux qui peuvent se procurer des VPN, c'est toujours mieux de les utiliser, effectivement, si c'est légal dans votre pays, parce qu'il y a des pays, au fait, qui n'autorisent pas l'utilisation des VPN, mais c'est vraiment un moyen très, très important à prendre en considération. Et aussi, ce que M. Nathan a dit, lorsque vous utilisez aussi des médias sociaux, évitez de cliquer sur n'importe quelle publication, plutôt n'importe quel lien, ou bien sur n'importe quelle sollicitation pour des services tiers à ces applications-là. Je donne l'exemple des médias les plus populaires actuellement. Il existe plusieurs applications tierces qui se connectent sur Meta et qui vous disent, OK, veuillez cliquer ici pour voir à quoi est-ce que vous allez ressembler après 30 ans. Au fait, lorsque vous cliquez là et que vous jouez à ces jeux, ces sites tiers ou bien ces services tiers recueillent toutes vos informations de connexion sur Facebook ou sur Meta. Et vous ne savez pas comment est-ce qu'ils vont utiliser ces informations-là. Et voilà, donc il faut vraiment rester concentré, utiliser des VPN si possible, utiliser des mots de passe forts, éviter de cliquer sur n'importe quel liens, surtout des liens où de l'argent vous propose de voir à quoi vous allez ressembler après 20 ans, après 30 ans, des liens où on vous propose par exemple de vous voir en quoi est-ce que vous allez ressembler en training militaire. Et j'ai vu beaucoup de warriors. Beaucoup d'utilisateurs qui se disaient, oui, qui se disaient, ok, en tenue warrior, c'est-à-dire en tenue de combat.
À quoi je vais ressembler,
là, bien habillé là. Oui, oui. Donc, bien. Tout ça, ce sont des données que vous mettez à disposition de n'importe qui et ça peut vraiment retourner contre vous. Merci vraiment à la contribution de M. Nathan.
Bien, on va accueillir Israël Mouindo Mukwiza. Il est, Israël Mouindo est au sud Kivu et Justin nous appelle de Bounia. Israël, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la sécurité, les bonnes pratiques pour notre sécurité sur Internet?
Oui, je dis merci pour la... J'avais seulement une question. En fait, la première question, c'est de savoir si qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport au piratage de tous les comptes Facebook. Comment on peut bloquer son compte Facebook qui a déjà été piraté et comment on peut récupérer celui-ci? La deuxième question, c'est de savoir, parce qu'en fait, il y a des messages qu'on reçoit des anarchaires qui vous disent... Écoutez, je suis Madame Sirène, etc.
La dame là, elle écrit à tout le monde, comment cette dame Sirène.
Comment on peut faire pour ne jamais recevoir de tels messages? Mais est-ce que aussi, quand même, dans le deuxième monde, est-ce que, par exemple, si le deuxième monde existait, est-ce qu'il y a déjà des cellulaires là-bas? C'est ça, quand même, la question. Il y a aussi un autre message qui s'appelle Roger, qui t'écrit... Écoutez, je vais te trouver un très très bon emploi, je ne sais pas, à l'UNICEF ou à au PAM et tout. Appelez-moi, je vais vous donner des astuces pour avoir de l'emploi et tout. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour être à l'abri des messages idiotiques comme ça que nous recevons chaque jour?
Bien.
C'était ça ma question, j'ai dit.
Merci Israël Mouindo. Justin, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de Radio de la Paix.
On vous écoute, Justin.
Oui, merci, monsieur Jody, pour la thématique. J'ai une question, mais avant qu'on en arrive, je vais mettre une suggestion, monsieur Jody. Je pense qu'à République démocratique du Congo, tout est permis. Parce que si vous partez dans d'autres pays africains, il y a même certains sites qui ne sont pas autorisés. Mais au Congo, en tout cas, tout est permis. Alors, lorsque tous les messages que nous recevons, en tout cas, aux réseaux sociaux, alors que l'Internet, c'est une bonne chose. L'Internet peut nous aider à mener des recherches scientifiques. Les recherches peuvent même nous donner la facilité de se rencontrer avec un ami de longue date, monsieur, aujourd'hui. Mais actuellement, l'Internet devient, en tout cas, un mode... qu'on ne sait même pas comment expliquer, dont la nudité devient une publicité, alors que la nudité à l'époque de nos aïeux, c'était un tabou. Mais actuellement, les enfants connaissent déjà la nudité même des hauts cadres. Alors, à cela, j'ai une question, monsieur Jody. Pourquoi l'autorité de régulation n'est pas, en tout cas, mettre en face pour interdire ou bien pour bloquer tous les arnaqueurs qui mettent de n'importe quoi aux réseaux sociaux ou qui parviennent à falsifier même des comptes des gens? Sinon, merci, monsieur Jody, et bonne journée.
Bien. Pourquoi ne pas bloquer tous les arnaqueurs sur Internet? Bien, monsieur Arsène. Vous avez les deux intervenants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Alors, monsieur Israël et monsieur Justin, merci beaucoup d'avoir intervenu. Vous touchez des questions qui sont très importantes. Et moi, Arsène Tungali, je suis un activiste des libertés publiques, des libertés sur Internet. La liberté d'expression, la liberté d'accès. Parce que ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons en tant que Rudi International et des sujets dont on va parler dans la conférence du 28 et 29 novembre ici à Kinshasa. Monsieur Israël qui a demandé comment est-ce qu'on peut récupérer un compte Facebook qui a été piraté. J'ai dit, et Monsieur Blaise l'a dit, lorsque nous avons l'habitude de cliquer sur n'importe quel lien qui nous arrive, nous nous exposons. Et la plupart, selon les études que nous avons faites, la plupart des liens qui sont suggestifs et qui sur lesquels la plupart vont tomber, c'est des liens qui ont un contenu à caractère pornographique.
Pornographie. C'est ça qui attire plus
c'est
les
ça
gens.
Qui attire le plus. Et les arnaqueurs, ils le savent. Ils te présentent juste une photo au début, là, à moitié, voilà, habillée. Et il te dit, pour bien voir le contenu, clique ici. Et ils savent que la plupart d'utilisateurs d'Internet, ils mordent à l'hameçon. Et il va cliquer. Et lorsque tu cliques, il te redirige vers un autre site qui a collecté tes informations. Et ce qui va se passer, c'est que sur ton Facebook, quand quelqu'un a ton mot de passe, ça veut dire qu'il va te bloquer. Il va changer le mot de passe déjà pour te mettre en dehors de ce compte-là. Et donc, tu as du mal. C'est lui désormais qui commence à le contrôler.
Qui contrôle ton compte.
Et donc,
ton
pour
compte.
Toi, c'est fini.
Oui.
Et si le récupérer, c'est presque impossible. Et nous allons avoir des collègues de Meta qui vont être sur Kinshasa pour participer à la conférence de la fin de ce mois ici. Donc, des gens qui peuvent répondre à des questions comme ça. Mais par expérience, il est difficile, pratiquement impossible de récupérer un compte comme ça. Parce que c'est très simple. Quelqu'un qui a pris ton mot de passe pour accéder à ton compte et qui l'a modifié après.
C'est fini, tu peux plus le récupérer.
C'est fini. Et surtout si tu n'as pas activé l'authentification à deux facteurs dont a parlé Monsieur Blaise, qui te permet en dehors du mot de passe la possibilité de pouvoir recevoir un SMS avec un code qui te permet, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à ton compte. Si tu n'as pas tout cela, quelqu'un qui a accédé à ton Facebook, tu as du mal à pouvoir le récupérer et c'est mort. Généralement,
c'est fini.
Généralement, c'est fini. Alors, Monsieur Israël a parlé également de ces madames sirènes et de ces SMS que nous recevons.
Cette dame-là envoie des SMS
à tout le monde. Et la question, n'est-ce pas, je l'ai dit, où est-ce qu'il a trouvé ton numéro?
Ah, c'est ça,
c'est la question à laquelle on devrait se pencher et c'est là que j'ai répondu un peu plus tôt. C'est peut-être à tous ces endroits où nous laissons notre numéro sans trop savoir c'est à quoi ça va servir. Dans un pays normal, et heureusement, nous avons déjà des lois dans notre pays, dont le code du numérique qui a des aspects liés à la protection des données personnelles et à la vie privée. Lorsque cette loi va être vraiment mise en application, des questions par rapport à tous ces formulaires que nous remplissons dans les hôtels, que nous remplissons, je sais pas, à la frontière, que nous remplissons dans des salles de conférences.
On laisse nos données un peu
c'est
partout.
Nos données que nous laissons partout. La loi devrait demander à toutes ces personnes-là qui collectent nos données à pouvoir nous expliquer c'est à quoi ces données vont servir. Ils les collectent pourquoi, ils les collectent, ils vont les conserver pendant combien de temps et qui pourra y avoir accès. Et donc, Madame Sirène et les messieurs qui t'envoient en Kiswahili, on dit Niite kukukazi nyotashimamia. Pour ceux qui parlent le Swahili, dans l'est de l'RDC, généralement, c'est les types de messages qu'ils reçoivent. Et lorsque tu appelles, généralement, c'est des transactions d'argent qui vont suivre. Et donc, soyons très, très, très vigilants, la vigilance, la prudence, de ne pas répondre à n'importe quelle sollicitation.
Alors, monsieur Justin. Avant de répondre à Justin, on va accueillir Trésor Kayeya de Kinshasa. Bonjour, Trésor.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question?
Bon, ma question est... J'ai deux questions. La première question est celle de savoir... Lorsque... avec des applications comme WhatsApp, j'ai toujours entendu que quelqu'un peut manipuler... de sorte que non, vous, quand vous conversez, il est connecté sur votre compte sans que vous le sachiez. Tout ce que vous recevez comme message, comme appel, automatiquement, une autre personne qui est connectée à votre numéro, je ne sais pas, votre code internet, peut, il est en train aussi d'enregistrer tout ce que vous recevez. Ça, c'était ma juste première préoccupation. Je peux dire l'unique préoccupation que j'avais.
Bien, merci Trésor Kayeya. Bien, je vais donner la parole, avant de donner la parole à notre invité Blaise qui est en ligne depuis la ville de Goma. Vous avez parlé des Rudy International dont vous êtes le secrétaire exécutif. Pouvez-vous nous parler un peu de cette organisation et parlez-nous de la conférence, la cinquième conférence à Akikonf?
Alors, Rudy International est une organisation dont je suis cofondateur et directeur exécutif. Le siège est à Goma, mais il y a aussi une représentation actuellement à Kinshasa depuis cette année. Nous sommes une organisation et nous disons que nous travaillons à l'intersection des droits de l'homme et de la technologie. Parce que les aspects de sécurité, ce sont des aspects qui ont un lien avec les droits humains, notre bien-être, et cela est lié à la technologie. Nous faisons la formation, la recherche et le plaidoyer. Alors, HakiConf, ou Haki, c'est le Swahili qui veut dire droit. Donc, HakiConf, c'est notre conférence annuelle, une opportunité qui nous permet d'interagir directement avec la grande masse de la population congolaise sur des questions liées au droit, des questions liées à la sécurité et des questions liées à l'utilisation d'Internet. Alors nous avons organisé 4 éditions successives à Goma et c'est la toute première fois que nous voulons organiser HakiConf à Kinshasa. Et c'est déjà du 28 au 29 novembre 2024. Ce sera à l'hôtel Memling. Alors, on ne sait pas accueillir tout le monde. Bien sûr, on va, ceux qui nous suivent, ils peuvent vérifier Rudy International sur Facebook et même sur Twitter et même sur LinkedIn. En fin de journée d'aujourd'hui, nous allons déjà mettre le lien pour s'inscrire afin de sécuriser leur participation. Nous avons
donc les gens peuvent suivre en ligne.
Oui, il y a aussi la possibilité. On va faire le live stream, donc il y aura la possibilité de pouvoir se connecter sur nos pages afin de suivre même de là où vous êtes, de Bukavu, de Goma, de Kisangani, je sais pas, de Lubumbashi, de toutes les villes de la RDC. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, vous serez en mesure de pouvoir vous connecter et suivre ce que nous faisons. Nous allons avoir des autorités politiques, dans les secteurs privés, tous ceux qui sont dans la connectivité, à la société civile, dont les activistes des droits de l'homme, les activistes sur les violences sur Internet et beaucoup d'autres sujets. Nous allons avoir également des parlementaires qui vont être avec nous. Et donc, c'est une conférence qui va réunir plusieurs parties prenantes et même les acteurs des médias. Parce que je dis, Nkashama, même dans les secteurs des médias, il est très important qu'il y ait des questions de sécurité, mais beaucoup plus les questions liées à la régulation ou bien à la législation qui traite les médias dans notre pays.
Mais avec, aujourd'hui, on a aussi une loi sur le numérique.
Sur le numérique. Et puis, on a la loi Mouyaya et tout par rapport à la liberté de la presse. Mais maintenant que la presse est en train de migrer aussi vers le numérique, il est très important que nous puissions parler de ces questions-là également. Et donc, c'est ça, HackiConf, pour la population de Goma, ça va leur manquer cette année, mais nous avons voulu en faire bénéficier également à la population de Kinshasa. Nous allons avoir en marge de la conférence plusieurs autres formations, dont une formation des avocats en droit du numérique, donc une opportunité de former la troisième cohorte des avocats congolais afin de les inciter à s'intéresser à ce domaine ici. Parce désormais au droit numérique, parce que demain, avec toutes les plaintes que les utilisateurs d'Internet vont avoir, les droits classiques ne savent pas comment gérer des questions comme ça. Donc, il est très important que les avocats congolais puissent se mettre à jour par rapport aux droits du numérique et être à mesure de prester et de défendre les intérêts des utilisateurs. Quelqu'un qui a été arnaqué, quelqu'un qui a été piraté, quelqu'un qui a eu, voilà, toutes ces difficultés que nous rencontrons dans notre utilisation de l'Internet. Il est important que les avocats soient suffisamment formés afin de commencer à traiter ces questions. Donc, l'inscription est pour la formation avec les avocats. Et nous allons avoir également une autre formation avec un autre partenaire, avec Meta, toujours le 28. Et le 29, ce sera la conférence principale.
Bien.
On peut revenir aux questions.
On va revenir aux questions. On a parlé de Madame Sirène, tout ça. Et puis Justin Debouni a dit pourquoi ne pas bloquer les arnaqueurs. Monsieur Blaise Ndola, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci beaucoup à toutes les questions. Je pense qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Je vais essayer un peu de survoler et d'apporter quelques éléments d'ajout par rapport à ce que M. Arsène a dit. Mais déjà, d'emblée, pour des cas comme Madame Sirène et consorts, moi je pense que ce sont des discussions que nous allons continuer pendant HackiConf avec les opérateurs de télécom, parce qu'au fait ces gens-là, ils essaient un peu de prendre des numéros à la volée et tout. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent ces numéros-là et ils envoient un message à une centaine de numéros. Donc c'est plutôt un travail qui doit aussi se faire avec les opérateurs de télécom pour voir comment est-ce qu'on peut limiter ces gens non identifiés qui envoient des messages d'une manière massive. Moi, j'ai même l'impression qu'il y a des applications qu'ils utilisent pour envoyer ce genre de messages. Mais au fait, ce qu'il faut faire par rapport à Madame Sirène, c'est juste de ne pas rappeler. Et si on vous envoie un lien, on vous dit, OK, cliquez maintenant sur ces liens pour avoir cet argent ou bien cette offre-là d'emploi. Faut pas cliquer sur ce genre de liens. Donc, en tout cas, ce que je peux conseiller. Sinon, par rapport au collègue, à l'ami qui a dit qu'il existe des moments ou des circonstances où un compte est connecté sur plusieurs appareils. Donc, vous utilisez votre compte ici, mais il est connecté sur plusieurs autres appareils. Donc, je voudrais conseiller à notre ami de toujours vérifier les différentes connexions. Parce qu'effectivement, c'est possible que ce soit sur WhatsApp, Facebook, Twitter, d'être connecté sur plusieurs device, comme on dit en anglais, bien sûr, plusieurs appareils au même moment. Mais c'est aussi facile de vérifier sur combien d'appareils est-ce que votre compte est connecté. Sur WhatsApp, c'est vraiment facile. Vous allez dans paramètres, vous vérifiez connexion. Vous allez vous rendre compte que votre compte WhatsApp est, par exemple, connecté sur un ordinateur, sur un téléphone. On va même vous dire la marque de cet autre téléphone-là. Et si vous ne vous retrouvez pas parmi ces autres connexions-là, la meilleure chose à faire, c'est de déconnecter toutes ces autres connexions sur différents appareils. Et comme ça, vous vous rassurez que vous contrôlez au fait sur quel appareil est-ce que votre compte est est ouvert.
Oui, mais Monsieur Blaise, généralement, on a appris que ce sont les amoureux souvent. Il veut contrôler tous les messages du téléphone de son partenaire. Alors, il contrôle à distance tout ce que l'autre reçoit comme message, etc., pour l'attraper s'il y a un cas d'infidélité.
Et par naïveté, ces amoureuses, surtout pour la plupart, malheureusement, ne vérifient pas sur combien d'appareils leurs comptes sont connectés. Donc, c'est facile de vérifier et de détecter ces comptes et ces appareils-là de vos comptes. Donc, il faut vraiment être vigilant et vérifier. Surtout, je reviens, quand vous venez d'ouvrir cette parenthèse-là, je ne sais pas si c'est vraiment permis, mais il y a des comptes ou des mots de passe qu'il ne faut pas partager. Quelqu'un vous a aidé à ouvrir un compte sur un tel service. Après qu'il ait fait ce service-là, allez modifier le compte, en tout cas, le mot de passe. C'est ce que moi, je conseille vraiment à beaucoup de gens. Alors, un autre élément pour finir, peut-être, il y a un ami qui a dit, ce compte-là qui publie des insanités ou bien des fake news et consorts, moi, je pense que tous les médias sociaux donnent l'opportunité de signaler ce genre de comptes. Donc, il faut toujours cliquer sur ce compte-là et descendre en bas. Vous allez voir des opportunités ou bien des options où on vous demande de signaler ce compte. Et lorsque vous signalez ce compte-là, vous allez dire pourquoi est-ce que vous signalez ce compte. Souvent, c'est lorsque ce compte viole les politiques de ces plateformes. Souvent, c'est pour des comptes qui ont été compromis où il y a usurpation. Votre ami, Madame Sirène, a piraté son compte. Vous pouvez aider cet ami-là à signaler ce compte-là. Comme ça, le compte sera bloqué par la plateforme et ça va éviter, au fait, cette chaîne de propagation. Ça va éviter, au fait, qu'il y ait beaucoup plus de victimes. Donc, j'appelle juste à la prise de conscience de tous les auditeurs qu'il existe des moyens de signaler des comptes. Quelqu'un est mort, vous pouvez signaler son compte, on va le fermer. Quelqu'un, le compte a été piraté, vous pouvez signaler ce compte, il sera fermé. Ou bien un compte qui publie des contenus qui sont inappropriés, vous pouvez aussi signaler ce compte et dire pourquoi est-ce que vous signalez ce compte. Et comme ça, ensemble, on va aider ces plateformes-là à devenir saines pour le bien de nos enfants et pour notre bien aussi.
Bien, Aristide Monsengo nous a écrit sur Facebook, il dit « J'ai été victime plusieurs fois de l'arnaque sur Internet, alors comment je peux faire pour ne pas tomber dans ces mêmes pièges prochainement ?» C'est Aristide Monsengo qui nous l'a dit depuis Mahagui. Monsieur Arsène, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Alors, Monsieur Aristide, beaucoup désolé déjà que vous soyez tombé à plusieurs reprises dans des arnaques. Moi, je crois qu'il faut vérifier la manière dont vous utilisez Internet, la manière dont vous vous connectez et les pratiques que vous faites sur Internet. Cela pourrait peut-être vous permettre de déceler à quel moment est-ce que vous devenez vulnérable. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais on n'a pas oublié Monsieur Justin qui a demandé de bloquer certains sites. Est-ce qu'on peut bloquer des arnaqueurs? Est-ce qu'on peut bloquer des sites parce qu'on a de la nudité partout et tout? Moi, je suis un fervent, comme on l'a dit encore une fois, nous défendons un Internet qui est ouvert, un Internet qui n'est pas censuré, un Internet qui est libre et accessible à tout le monde. Parce que lorsque nous allons à ce niveau où nous sommes obligés de demander à l'État de pouvoir intervenir, nous connaissons bien l'État avec son rôle régalien. Lorsque l'État, on lui donne la main, il va prendre tout le bras. Et donc l'idée même, je ne voudrais même pas parler de l'idée de permettre à l'État ou au régulateur de pouvoir commencer à bloquer certains sites, parce que cela peut nous amener à certaines dérives et même à certaines violations des droits humains.
Permettez qu'on va accueillir Madame Claudine depuis Colosi. Madame Claudia, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aux invités. Je crois que je suis vraiment au bon endroit pour avoir la réponse à mes préoccupations. En fait, je me suis toujours posé la question de savoir, ça concerne les différentes, les multiples offres d'emploi rencontrées sur différentes plateformes numériques. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont déjà eu à être embauchés à partir de ces différentes offres d'emploi? Parce que si ce n'est pas vraiment le cas, on doit vraiment, la communauté doit être informée là-dessus. Parce que des fois, tout le monde a besoin d'emploi, tout le monde cherche de l'emploi. Mais quand on tombe de différentes offres comme ça, moi personnellement, j'ai essayé. On me demande l'adresse email et quand on me demande le mot de passe, là, je quitte carrément. Mais toutefois, il y a des personnes qui essaient. Une fois que tu essaies, on te demande de partager le message, je ne sais pas, 15 personnes, tout ça. Il y a beaucoup de courage. Toujours. Pourquoi ma question, c'est de savoir s'il y a des gens qui ont déjà été employés, qui ont eu de l'emploi à partir des différentes offres d'emploi rencontrées sur différentes plateformes numériques. Merci.
Bien, merci. Monsieur Arsène.
Alors, Madame Claudia, ça c'est un cas très important et on l'a dit. Il y a plusieurs offres qui circulent. Quelqu'un te dit, voilà, gagner 100 mégas. Oh, Fachi offre 500 mégas à celui qui clique ici. Oh, je sais pas, Fayoulou offre autant de mégas.
Vous venez de gagner autant, vous n'avez pas compétit et tout ça.
Vous n'avez pas compétit. Et à la dernière minute, ils ont sûrement à un moment vous demander de l'argent ou vous demander de cliquer sur un lien et demander votre mot de passe. Et déjà, je voudrais alerter tout le monde. À chaque fois que quelqu'un vous appelle sur téléphone et qui vous demande de donner votre mot de passe, ne le faites pas. Ou un site web sur lequel vous connectez qui vous demande un mot de passe, la plupart des gens ont l'habitude de donner le même mot de passe qu'ils utilisent même sur leur compte Gmail. À chaque fois qu'on leur demande un mot de passe, c'est celui-là qu'ils mettent. Et là, c'est déjà des gens qui sont en train de collecter vos informations personnelles et pouvoir vous atteindre. Alors, les offres d'emploi, il y a des sites web qui sont sérieux, comme LinkedIn. Il y a des sites web des différentes organisations où les offres d'emploi sont publiées de manière légale et de manière légitime. Privilégiez plutôt des plateformes comme celle-là. Et même quelqu'un qui t'envoie une offre sur WhatsApp, rassure-toi déjà de répondre à la personne. Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui m'as envoyé ça? Parce qu'il y a certains autres messages qui vont presque automatiquement où à la personne, on lui a demandé partage 500 personnes pour gagner je ne sais pas ceci à la fin. Et la personne va cliquer et sélectionner tout son répertoire. Un message comme ça va leur arriver. Je voudrais finir avec la question de M. Justin pour dire, au lieu de demander au gouvernement de censurer ou de bloquer certains sites, nous encourageons plutôt à une bonne utilisation et une utilisation responsable. Si tous les auditeurs de Radio Capi qui nous écoutent maintenant peuvent se décider de désormais être responsables dans leur utilisation des technologies, cela va nous éviter d'arriver au point où nous avons besoin de l'intervention du gouvernement pour bloquer ou bien censurer certains contenus.
Bien, on va accueillir le professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique. Professeur Kodjo, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jeudi et bonjour Monsieur Arsène.
Bien, nous parlons de l'hygiène numérique. Quelles sont les bonnes pratiques pour notre sécurité sur Internet, professeur Kodjo?
En fait, chaque fois que nous sommes sur Internet, et j'ai entendu...
Allô?
...technologiques qui sont nos traces personnelles. Alors, on peut laisser ces historiques de navigation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, quelqu'un qui laisse les traces sur ses centres d'intérêt sur un Internet peut être profilé. Vous avez également les données de géolocalisation. Chaque fois que nous nous connectons, en fait, on peut connaître notre localisation. Nous avons des données d'authentification. C'est les mots de passe dont parlait M. Arsène Tungali et les identifiants. On a aussi des pseudos. Donc, il y a, comment on appelle également, les informations nominatives et surtout les dates de naissance. Hein. Beaucoup de gens utilisent comme mot de passe leur date de naissance. Et voilà. Donc, tous ces éléments qui nous rendent identifiables ou qui nous identifient sur Internet nous exposent parce que Internet, c'est plus de 4 milliards de personnes et il n'y a pas que des personnes bienveillantes. Donc, l'une des mesures à prendre, c'est d'abord la sécurité de ces données par un comportement dont les bonnes pratiques ont été, je suivais avant de me connecter, rappelées il y a quelques instants par Monsieur Tungali. Voilà.
Bien. Alors, souvent, quelqu'un a parlé tout à l'heure de ces messages qu'on reçoit souvent. Madame Sirène, moi c'est Madame Sirène, je suis en Tanzanie, j'ai beaucoup d'argent que je veux partager avec vous, etc. Écrivez-moi, etc. ou envoyez ceci, envoyez cela. Quel comportement adopter devant ce genre de messages?
En fait, le problème avec Internet, c'est qu'il est devenu un média de masse sans que les personnes... qui l'utilise ne soit éduqué à la façon de mener leur interlocution. De manière simple, lorsque on a installé les téléphones fixes à la maison, il avait été demandé aux enfants qui étaient seuls dans la maison, un, de ne pas parler aux inconnus, et deux, de ne jamais dire au téléphone qu'ils étaient seuls à la maison parce que le cambrioleur pouvait venir. Et maintenant, avec l'Internet, nous n'avons pas cette éducation où nous appelons sur TikTok tout le monde, bonjour la famille. Ou encore sur Facebook, nous acceptons des amis sans pour autant les connaître. Nous avons des tas de followers. Donc pour la question précise, lorsque vous parlez avec une personne inconnue, vous devez toujours trouver un moyen pour cette conversation d'avoir la certitude de l'identité. Soit de vous rencontrer physiquement, soit de passer dans un mode qui est plutôt direct de communication, et surtout ne jamais envoyer de valeur. Ça veut dire que quelqu'un qui vous dit comme Madame Sirène, bon voilà, vous connaissez pas son nom, donc vous l'avez pas identifié, vous n'avez pas eu de contact physique pour vous assurer de l'identification de la personne, mais vous commencez déjà à interchanger les données personnelles. Elle vous demande où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, combien d'enfants vous avez, et vous le faites ainsi sur Internet, chose que vous ne ferez pas si quelqu'un dans la rue vous demande « Donne-moi ta pièce d'identité », tu lui donneras jamais.
Professeur Kodjo,
surtout, professeur, envoyer les valeurs.
Professeur Kodjo, qu'est-ce que la loi dit par rapport à tout ça? Est-ce que c'est pris en charge par la loi sur le numérique aujourd'hui?
En fait, il y a l'ordonnance loi de mars 2023 qui a fait tout un grand chapitre sur la protection des données personnelles. Mais il n'existe pas pour le moment un service public de la donnée. Ça veut dire que pour le moment, sur le plan comportemental, Arsène Tungal l'a dit, mais sur le plan juridique, il y a un cycle de vie de la donnée. On protège la donnée, même dans notre code du numérique, à partir de sa génération, de sa collecte, de son traitement, de sa conservation et de sa circulation. Mais maintenant, le niveau de protection ne peut pas être assuré par l'individu lui-même. L'approche personnaliste qui est celle du droit à l'image, du droit au nom, est dépassée. Il faut...
Allô?
C'est donné comme de la marchandise. Lui, c'est donné comme de la marchandise. Et donc, il faut qu'il y ait un service public de la donnée. Vous allez même plus loin. L'article 31 de la Constitution de la RDC... je répète, l'article 31 de la Constitution de la RDC dispose que la correspondance privée, même par les voies des télécommunications, doit être protégée. Donc il faut que l'État assure un service public de la donnée, comme ça se fait dans d'autres pays, où il y a des procureurs numériques, où il y a des commissions...
Merci beaucoup, professeur.
Il y a des procureurs numériques, mais où aussi il y a des commissions nationales informatiques et libertés. Voilà.
D'accord, merci.
La connexion nous pose problème.
Elle pose problème. Merci, professeur Kodjo Ndokouma. Je rappelle que vous êtes expert en droit numérique. On est presque arrivé à la fin de cette émission. Bonne journée.
Je vous remercie.
D'accord. On va terminer avec vous, monsieur Arsène. Donc, tous ces sujets, ça sera sur la table lors de HackConf, 5e édition à Kinshasa.
À Kinshasa.
Du 28 au 29.
Du 28 novembre. Au 29 novembre. Nous sommes en train d'appeler différentes parties prenantes et ceux qui voudraient entrer en contact avec nous. Est-ce qu'on pourra donner un email de contact?
Oui,
peut-être.
Allez-y.
info@rudiinternational.org ou bien ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux et peut-être nous contacter. Nous sommes à la recherche de toutes ces personnes qui sont intéressées à développer des sujets spécifiques ou bien même des partenaires qui peuvent être des sponsors pour cet événement. Nous pensons même organiser une clinique sécurité numérique pendant cette période où les gens pourront venir avec des experts, ils posent leurs problèmes directement. Donc quelqu'un il vient et te dit voici mon téléphone, voici comment il est en train de se comporter. Et on gère la question directement. Et pour ça, nous avons besoin des partenaires qui peuvent faciliter cela. Donc, nous avons l'opportunité de nous retrouver du 28 au 29 pour pouvoir parler de toutes ces questions ici. Et le lien pour s'inscrire va être publié cet après-midi déjà sur nos différentes plateformes Rudi International, sur Facebook, sur Twitter et même sur LinkedIn. Allez-y cet après-midi et inscrivez-vous si vous êtes à Kinshasa. Et si vous êtes à l'extérieur, nous allons partager également les coordonnées pour vous connecter à
Merci
beaucoup, professeur Kodjo, que nous espérons revoir encore une fois
merci à vous.
Pendant cette activité.
Merci également à monsieur Blaise. À la prochaine.
Merci, au revoir.